9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé, et vous allez le voir ce matin, eh bien, la santé est dans l'assiette avec mon invité qui s'appelle Estelle Barayon. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Merci de votre patience Estelle. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Vous êtes docteur en pharmacie et naturopathe et vous êtes co-auteur de Cuisiner pour se soigner. Alors c'est un livre aux éditions Kiwi, c'est un livre qui a une histoire puisque finalement vous avez commencé par vous faire plaisir de faire un livre qui vous ressemblait.
Tout à fait.
Vous avez auto-édité, ce que beaucoup de gens font d'ailleurs hein, aujourd'hui de plus en plus.
Ouais, je pense que c'est sympa de construire l'ouvrage et puis d'aller faire toutes les étapes jusqu'à le tenir dans les mains. L'impression, le graphisme, les photos, c'est quelque chose de très plaisant à faire.
Expliquer aux gens qui nous écoutent que quand on fait des livres, c'est pas pour gagner de l'argent.
Ah non, par contre.
Hein, faut expliquer aux gens. C'est que vous savez, parfois, quand on fait un livre, ça coûte de l'argent.
Tout à fait.
Mais on a un objet qui nous ressemble.
Une satisfaction, ouais, d'avoir créé quelque chose de bout en bout. C'est une sacrée expérience.
Et aujourd'hui, votre livre a été repéré, ce qui vous vaut d'être édité par Kiwi. Et c'est pour ça qu'on peut le retrouver partout et distribuer. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on est auto-édité, mais on peut le retrouver dans les FNAC, dans les grandes surfaces
Exactement.
Des livres, et un peu partout.
Tout à fait.
Alors, cuisiner pour se soigner, je vais vous donner un exemple de recette, puisqu'il y a beaucoup de recettes dans votre livre qu'on retrouve dans le livre. Par exemple, la tarte antalgique. Voilà, c'est un exemple. Hein. Un concentré d'anti-inflammatoire qui revitera la tarte. Et je crois que de mémoire, il y a du couscous dans cette tarte.
Oui, c'est une tarte sans gluten, parce que dans les pâtes des tartes, souvent, on trouve des farines blanches. Et ça, on n'en veut pas. Quand on a des douleurs, on va essayer de réduire l'inflammation. Donc du coup, on va essayer d'enlever le gluten. Donc là, c'était du couscous semi-complet de mémoire.
Voilà,
donc il y en a un petit peu, mais on réduit, réduit. Mais c'était pas du quinoa.
Non, c'était du quinoa.
Voilà.
Non, enfin, je sais pas. Enfin, de mémoire.
Voilà,
en tout cas, c'est une tarte antalgique. Vous êtes docteur en pharmacie. Qu'est-ce qui finalement vous a fait basculer dans la naturopathie? Et alors, vous m'avez repris tout à l'heure et vous m'avez dit « Ah non, 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 c'est pas l'herboristerie. »
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
C'est vraiment deux disciplines différentes. Alors, on peut utiliser l'herboristerie en naturopathie, mais je pense que l'inverse n'est pas vrai. L'herboristerie va vraiment s'intéresser aux plantes. Le naturopathe, il va regarder la personne, il va essayer de la soigner dans son intégralité. Mmh. Il va regarder son alimentation, son mode de vie, ses émotions et il va essayer de prendre en compte tous ces paramètres pour le soigner.
Mmh. Donc, rien à voir. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vous former à la naturopathie alors que vous étiez armée?
Oui, on est armée quand on est pharmacienne, mais finalement, au bout de 20 ans, on fait le tour de ses compétences. Et en plus, moi, j'ai expérimenté la maladie et je me suis dit, ça ne suffit pas d'avaler des médicaments.
C'est-à-dire que l'allopathie n'était pas suffisante. L'allopathie,
pour moi, en tous les cas, elle ne l'était pas. Et je me rends compte que globalement, elle ne l'est pas. Voilà. Il y a des tas de choses qu'on peut faire, nous, pour nous aider à être mieux. Mmh. Ça sous-entend d'accepter de faire des efforts, d'accepter de changer des choses dans son mode de vie pour aller mieux. Mmh. C'est ça qui me plaît.
Et vous avez accepté de retourner à l'école, puisque vous vous êtes formé. Hein. Vous êtes reparti pendant 2 ans, vous formez.
3 ans.
3 ans.
Mmh, ouais. À Paris, ouais. Mais ça nourrit, justement. Alors, c'est drôle, hein. Il en sort un livre de cuisine, mais ça nourrit. Les compétences, ça nourrit ce qu'on on déconstruit, on reconstruit, c'est ultra intéressant.
Un pharmacien, il fait beaucoup de chimie.
Oui.
Il est quand même très formé à toutes les questions des molécules.
Oui.
C'est pour ça que dans votre livre, vous êtes si, on va dire, complète sur les substances que renferment les légumes.
Ah, ça donne un atout supplémentaire d'être pharmacienne, ça c'est sûr. De connaître,
parce que vous comprenez mieux finalement le mode d'action des aliments.
Mais c'est sûr, c'est des choses qu'on a déjà appris. Donc c'est comme un rappel sous un autre angle. On revoit les mêmes choses, mais on met un éclairage différent. Donc c'est comme si on révisait, mais avec 20 ans de plus, avec une expérience en plus. Donc si on s'est un peu mélangé tout ça, ça devient très intéressant.
On oppose souvent alors médecine naturelle et médecine, on va dire, allopathique.
Il ne faut pas, ça se complète. Il faut arrêter ces clivages. On peut tout à fait prendre un doliprane parce qu'on a mal à la tête et faire attention à ce qu'on mange, ce n'est pas incompatible. Au contraire, il faut encourager les gens à ne pas être trop extrémistes dans leur façon d'envisager la santé et d'aller picorer un peu dans chaque discipline. Mmh.
Prendre ce qui est bon dans chaque discipline.
Évidemment, ouais, carrément. Mmh.
Mais ça, on ne le dit pas assez aux gens.
Bah, disons-le. Mmh. Voilà, disons-le.
Vous vous êtes plongé dans toutes les nouvelles tendances culinaires qui existent. C'est plus compliqué de manger aujourd'hui qu'avant. Il y a un vrai nomadisme.
Ouais.
L'offre est quand même très diversifiée.
Oui, et puis on est aussi dans une société qui prône le plaisir à tout prix et qui véhicule des images faussement informatives. Moi, je suis partie un peu en guerre contre toute cette nourriture très visuelle, très jolie, etc., mais qui n'est pas forcément bonne à la santé. Mmh. Je prends exemple de toutes ces flots de comptes qui existent avec des cookies healthy, avec des gâteaux healthy. Ben, d'accord, mais manger des gâteaux, c'est juste pas healthy à la base. Voilà. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et il faut remettre du sens dans le mot healthy. C'est la santé. Donc, la santé, c'est pas manger des cookies toute la journée.
Mmh. Bon. On peut se soigner grâce à l'alimentation, c'est vrai ou c'est pas vrai?
Oui, c'est vrai. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Hippocrate l'a dit avant moi, il y a 2000 ans. Donc on peut le croire peut-être.
L'important, c'est l'hémostasie.
L'homéostasie,
pardon.
Ouais, mais c'est dur à dire. Hein.
Ouais, c'est moi qui l'ai dit. je l'ai lu vite, je crois. C'est pour ça. Homéostasie, mais pourquoi c'est important et ça explique tout ce qu'on va expliquer ce matin?
L'homéostasie, c'est une notion d'équilibre, hein. Mais un équilibre dynamique, un équilibre dans le mouvement. Et c'est le corps va tout le temps chercher cet équilibre, hein, quoi qu'on fasse. Donc, il faut réfléchir à ce qu'on apporte à notre corps avec l'alimentation, parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir perturber cet équilibre. Donc, à nous de contrebalancer avec des choses qui lui font du bien si on fait du mal par ailleurs.
On essaiera d'expliquer tout à l'heure des choses un peu compliqués, qui sont les inflammations et tout
oui.
Ce qui est la base, l'acidité. Bon, on va essayer de vulgariser ce matin. Votre grand-mère vous soignait par l'alimentation. C'était
oui.
Quoi son remède miracle à votre grand-mère?
Il y en avait plein. Alors déjà, c'était beaucoup d'amour. Hein, voilà. Et puis, moi je me rappelle, on rentrait de chez ma grand-mère et ma mère nous disait « Ah, vous avez les joues toutes roses ». Et ma grand-mère, elle nous soignait à coups de steak, pour tout dire. Et c'est vrai que chez
quand
moi,
vous
on
dites
a...
à coups de steak, c'est-à-dire vous donnez des coups
vraiment
avec des...
le steak dans la poêle avec plein de beurre mais la viande rouge. Et c'est vrai que chez mes parents, on n'en mangeait pas tant que ça. Donc du coup, on se prenait un bon shoot de fer, je pense, bon shoot de ce qu'il fallait, et on rentrait régénéré. Donc voilà, il n'y a pas de rien n'est sacré. On peut manger de la viande et que ça nous fasse du bien.
Mmh. Oui, on ne faut pas non plus être anti-viande subitement. Après, chacun fait ce qu'il veut.
Oui, je crois qu'il faut garder un peu de mesure. On est omnivore au départ. Après, c'est des histoires d'engagement. Ça, c'est différent. Voilà, si on n'a pas envie de manger de viande pour des raisons qui nous appartiennent, bien sûr qu'on peut le faire. Attention à son taux de protéines dans ces cas-là, à son taux de fer. Mais en général, les gens qui rentrent là-dedans se renseignent. Il ne faut pas le faire de manière sauvage parce que ça peut être dangereux.
Mmh. D'où viennent les recettes qu'on trouve dans votre livre ?
De partout, de celles que j'ai expérimentées dans ma cuisine, des copines, de livres, de voyages, c'est ça les inspirations.
Voilà, et vous les avez testées sur votre famille qui a joué le rôle
bien sûr,
de cobaye.
Cobaye,
il faut
évidemment.
Dire. Mais toutes les recettes que vous expliquez dans votre livre ont un argument santé.
Oui, c'était la base de l'ouvrage. C'était vraiment montrer qu'avec des choses très simples, parce que ça, c'était une réelle volonté et ça a été une demande de mes clients quand je leur ai expliqué que j'allais écrire un livre. Ils m'ont tout de suite dit « Estelle, nous met pas des ingrédients où il faut qu'on court 18 épiceries pour le trouver. Fais-nous des choses simples. » Donc, j'ai essayé de respecter au maximum ce cahier des charges. Et on a fait des recettes qu'on peut faire parfois en 5-10 minutes.
Mmh. Tout est à portée de placard.
Voilà.
Ça tourne autour de 4 thématiques. Quelles sont ces thématiques?
Alors, il y a le rhume, le sommeil, la fatigue et les douleurs.
Et les douleurs, c'est au sens large.
Oui, tout à fait. Toutes les douleurs. Mmh. La douleur, c'est l'inflammation.
Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à l'alimentation moderne?
Bah, je lui reproche d'être trop sucrée, trop grasse, trop peu variée. est trop peu cuisiné. En fait, on a tendance à aller chercher des textures toujours les mêmes goûts. Et je pense que le meilleur conseil que je peux donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de ne pas adopter de routine alimentaire et d'essayer de varier tous les jours ses aliments. C'est les Japonais qui disent qu'on devrait consommer une quarantaine d'aliments différents par jour. Et ben en fait, c'est faisable, là. Si on compte les épices, si on compte les herbes, si on compte...
Déjà qu'on a du mal avec 5 fruits et légumes par jour.
Ouais, mais voilà, ça peut être rigolo d'essayer de compter combien d'aliments différents on met dans son assiette.
Vous insistez beaucoup sur les modes de cuisson. En quoi les modes de cuisson sont-ils importants ?
Eh bien, la cuisson, ça dévitalise. Donc, ça, quand on chauffe, ça, c'est pour le coup, c'est de la chimie. Les vitamines s'évaporent, enfin, disparaissent en tous les cas.
Donc, il y a ce qu'on appelle, et j'ai appris ça dans votre livre, les corps de Maillard.
Ah ouais, c'est un cauchemar, les corps de Maillard.
Mais c'est quoi les corps de Maillard ? Vous voulez qu'on en parle ou pas ? Parce qu'on parlera du sommeil.
Je ne sais pas. Vous êtes prêts ?
Ouais, je suis prêt.
Ouais, ok. Ouais. Les corps de Maillard, c'est quand on caramélise un produit. Donc, tout le monde le sait, quand c'est doré, quand c'est croustillant, eh ben, y a plein de corps de Maillard. C'est une réaction chimique. Et ce que ça produit, eh ben, c'est pas génial parce que ça colle, c'est comme un espèce de caramel, justement. Et du coup, dans le corps, ça va être très délétère. Ça va créer beaucoup de choses dont on veut pas.
D'accord.
Donc, faut éviter.
Donc, si vous aimez ce côté caramélisé,
faut le garder pour le plaisir, mais pas en alimentation quotidienne.
On appelle ça les corps de Maillard. Vous pouvez googler. Hein, c'est ça, je l'ai appris en lisant votre livre. Alors, on va s'intéresser au sommeil tout à l'heure et vos conseils pour bien dormir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes pour dormir, notamment l'œuf.
Ouais.
Et on verra pourquoi les œufs sont bons pour ceux qui ont du mal à dormir. AVS à votre santé jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, cuisiner pour se soigner, c'est le titre du livre qui a été coécrit par mon invité ce matin, qui est Estelle Barillon, qui est docteur en pharmacie, qui est naturopathe également, et qui vient de publier ce livre. Et combien de recettes exactement dedans ? Vous avez une idée ?
Il me semble qu'il y en a entre 80 et 90, peut-être 86, 87.
Avec des conseils naturopathiques pour soigner par l'alimentation, quatre problématiques courantes que sont... le sommeil, le rhume, la douleur et la fatigue. Tiens, je vais commencer par un proverbe qui vient de Hollande. Du hareng dans le pays et le médecin s'ennuie.
J'adore.
Puisque le hareng est notre allié antidouleur par excellence.
Mais bien sûr, c'est gorgé d'oméga-3. Oméga-3, ce sont les bonnes graisses qui vont avoir des vertus très anti-inflammatoires. Et dans nos alimentations modernes, on les oublie. C'est dommage, on ne mange plus assez de poisson. On ne mange plus assez de noix, d'oléagineux. Et du coup, on en manque cruellement.
Voilà, le hareng, mais c'est valable aussi pour le maquereau.
La sardine.
La sardine, ouais.
Le haddock. Le saumon, quand il est de bonne qualité.
Tous les poissons gras, en fait.
C'est ça. Alors, les petits poissons, de préférence, parce que ça charge moins les métaux lourds. Mais tous les petits poissons sont excellents pour ça.
Vous avez connu et vous avez vu naître la mode des probiotiques.
Oui.
Il y a 20 ans, on ne vendait pas le probiotique.
Mais on connaissait mal, en fait. Et au-delà d'une mode, c'est un véritable sujet de science. C'est un des sujets préférés de la communauté scientifique. Il y a un nombre d'études sur ce microbiote intestinal qui est hallucinant. Mmh. Et on n'est qu'au début des découvertes sur le sujet. Mmh. Tout part de là.
Ouais. Mais ce qui nous intéresse, nous, finalement, c'est d'avoir des probiotiques naturels.
Oui.
Hein?
Oui.
On les trouve où, ces fameux probiotiques dans l'alimentation ?
Alors, on va le trouver dans les aliments dits fermentés. Donc, pour faire simple, tout le monde connaît la choucroute. Voilà, le chou fermenté est une source de probiotiques naturels. Après, un peu plus pointu, il y a des boissons qui existent comme le kombucha, comme le kéfir, qui sont aussi des boissons fermentées riches en probiotiques naturels.
C'est pas très bon au goût.
C'est vrai, mais voilà, il faut aussi habituer ses papilles à des goûts différents et on peut on peut s'y habituer.
C'est le champagne du Caucase.
C'est le champagne du Caucase, ouais. Ouais, parce que c'est vraiment...
Pourquoi champagne du Caucase ?
Parce que c'est une boisson santé, c'est comme un élixir de vie, en fait. Mmh.
C'est quoi le secret d'un bon kéfir?
Bah, peut-être qu'il soit fait maison, avec des grains qui se transmettent. Ça se transmet, les grains. Alors, ça peut s'acheter éventuellement en pharmacie, mais souvent, ça se transmet de copain en copain, de famille en famille. Et on peut le fabriquer soi, avec un peu de, avec un peu de fruits, du sucre pour que ça fermente. Et c'est des choses qu'on peut faire facilement chez soi.
Vous le faites, le kéfir?
Non, avec les journées que j'ai, on ne va pas se mentir, non, je ne fais pas de kéfir, mais mon papa en fait régulièrement, et quand je vais le voir, j'en bois avec plaisir.
Alors, quelles sont les règles naturelles santé pour avoir un bon sommeil? C'est quoi la base?
Alors, l'alimentation, le sommeil, c'est très complexe, hein, c'est multifactoriel, donc il va y avoir l'alimentation, effectivement, il va y avoir la gestion de notre stress. Il va y avoir le fait qu'on ait une vie saine globalement. Hein. Les gens qui dorment mal, c'est souvent qu'il y a un souci quelque part. Donc, chercher où est le souci. Voilà, ça c'est le premier conseil. Après, l'alimentation peut jouer sur le sommeil. Ce ne sera pas aussi probant que pour les douleurs ou la fatigue, mais ça peut vraiment influencer la qualité du sommeil.
Alors les gens vont vous dire, voilà, est-ce qu'il y a des aliments ou des plantes, ou...
Oui, il y en a.
Qui font dormir, par exemple, on pense à la fleur d'oranger, par exemple.
La fleur d'oranger, elle a des vertus sédatives. Après, c'est ce que j'explique souvent, il ne faut pas attendre des miracles d'un aliment. Si vous êtes stressé, que vous êtes préoccupé, que vous avez des soucis qui vous tournent dans la tête, vous pouvez boire la bouteille de fleur d'oranger, le soir, vous allez tourner dans votre lit. Voilà, il faut prendre le problème dans sa globalité. Mais oui, la fleur d'oranger a des vertus sédatives, effectivement.
Alors, la fleur d'oranger, donc, on en avait peut-être déjà entendu parler. La laitue, non.
La laitue...
Non, donc la laitue a des vertus sédatives.
Oui, alors...
Mais regardez, ça fait d'ailleurs dormir notre stagiaire.
Oui, il a mangé trop de laitue.
Moi, je pense qu'il a... Voilà, c'est ça.
Il a mangé trop de laitue. Oui, ben alors c'est des choses que j'ai apprises en concevant le livre. La laitue a un espèce de latex qui est riche en substances un peu sédatives. Donc elle peut être intéressante pour avoir un sommeil de meilleure qualité.
Alors dans ces cas-là, à quelle heure il faut la consommer et comment faut-il la consommer?
Il vaudrait mieux la consommer peut-être en smoothie, c'est ce qu'on propose, et plutôt en fin de journée.
Alors, un smoothie laitue banane.
Pourquoi pas?
Oui.
Faut tenter.
Non, c'est vous qui proposez ça.
Mais je le sais, Oui. Mais c'est très bon, et les smoothies, ça permet de consommer des légumes d'une manière un peu plus ludique. Et puis, pour les gens qui vraiment n'aiment pas ça, on peut masquer un petit peu le goût avec les fruits.
Alors, je parlais de l'œuf tout à l'heure, mais je suis peut-être allé un peu rapidement. L'œuf n'a pas des vertus sédatives.
Non.
Mais vous avez une recette qui s'appelle embrouille l'insomnie.
Et je vous ai embrouillé, du coup.
Ouais, complètement, parce que moi, je pensais à embrouille, œuf brouillé. Vous voyez, je...
Après, l'œuf, il a des propriétés intéressantes, notamment dans le jaune coulant. Alors, il faut qu'il soit coulant, sinon on perd un petit peu, c'est toujours pareil, c'est des histoires de chimie, des propriétés qui disparaissent quand le jaune est dur. Mais dans le jaune coulant, il y a un neurotransmetteur qui est en quantité importante, c'est le GABA. Et le GABA, c'est le frein des émotions un petit peu. C'est ce qui va nous permettre d'être un peu plus cool.
Le
GABA.
GABA.
On connaît plus les autres, la sérotonine, la dopamine. Ben voilà, je vous en sors un autre.
Je connais pas
le GABA.
Bon, c'est bien parce qu'on va pouvoir googler et
c'est
voir
ça.
Effectivement s'intéresser aux petits nouveaux. Vous avez par exemple des recettes de shoot de mélatonine aussi.
Mm-mm.
Alors pourquoi la mélatonine et comment est-ce qu'on peut agir sur cette... C'est une hormone, hein, la mélatonine.
La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil.
Voilà. Comment est-ce qu'on peut agir sur cette hormone?
Alors, on peut agir parce qu'elle est fabriquée par nos organismes à partir d'un acide aminé, qui est le tryptophane, qui va ensuite donner la sérotonine, qui ensuite elle-même se transformera en mélatonine. Bon, j'espère que j'ai perdu personne au passage. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un apport de tryptophane au départ suffisant. C'est toujours la même chose si le corps manque de ces acides aminés. Alors, les acides aminés, ça se retrouve dans les protéines. Et souvent, avec les nouveaux modes d'alimentation, notamment le véganisme, etc., on peut parfois manquer de protéines.
C'est-à-dire que ce tryptophane, on le trouve dans les protéines de la viande?
Pas toujours.
Pas toujours,
il y en a dans la banane, par exemple. Voilà, il y a des aliments qui sont riches en tryptophane, mais en tous les cas...
Lesquels, par exemple ? Lesquels privilégiés ?
C'est-à-dire ?
Les aliments riches en tryptophane.
Ben, la banane à 17h, c'est super, par exemple. Alors déjà, c'est un peu... les fibres vont nous caler un petit peu, ça évitera qu'on se jette sur tout ce qu'il y a dans le frigo quand on arrive à la maison et qu'on rentre du travail. La banane, les amandes, le chocolat noir en contient. Enfin voilà, il y a pas mal d'aliments qui vont nous permettre d'avoir ce taux de tryptophane.
Donc, à la recherche du tryptophane.
Perdu.
Hein ?
À la recherche du tryptophane perdu.
Alors, un autre qu'on ne connaissait pas aussi, c'est le tyrosine. C'est qui ?
La tyrosine.
Alors, c'est une fille.
C'est une fille.
Shkoun, la tyrosine.
Ouais. La tyrosine, c'est celle qui va nous permettre de fabriquer la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone starter. C'est celle qui nous fait démarrer le matin.
Donc, c'est l'inverse de la mélatonine.
C'est l'inverse,
en fait,
exactement. Voilà. Ouais. Mais on est toujours des plus-moins hein, dans l'organisme.
D'accord. Et donc, comment justement, quels sont les aliments qui sont boosters de tyrosine ?
Ben, justement, dans les œufs, il y a beaucoup de tyrosine. On revient à nos œufs. Et chez les gens qui ont un petit peu de mal à démarrer le matin, on peut conseiller un ou deux œufs le matin. Alors, en général, quand on dit ça, ce n'est pas toute la vie, ce n'est pas tous les jours. Mais on peut faire ça 2 à 3 fois par semaine, manger 2 œufs le matin pour bien démarrer, avoir un bon taux de tyrosine.
On n'a jamais autant parlé du métabolisme que depuis 2 ans et du terrain. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont boosters de métabolisme ?
Alors, métabolisme, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est notre système immunitaire.
D'accord, ok.
Parce que, bon.
Oui, alors.
En temps de Covid.
Oui, mais en temps de Covid, il faut prendre soin de nos systèmes immunitaires. Mais. En fait, c'est toujours un peu les mêmes notions qu'on retrouve. Mettre de la couleur dans son assiette, varier ses aliments, c'est comme ça qu'on va prendre soin de nos systèmes immunitaires. Pas en leur proposant toujours la même chose, pas en leur proposant du pain de mie tous les matins. C'est pas des aliments, ça. Mmh. Voilà, c'est pas de l'alimentation, de manger du pain de mie, des sandwichs à midi, des pâtes le soir. Là, le système immunitaire, lui, ça lui convient pas. Ça.
Vous parlez d'une alimentation qui est vivante.
Mais oui. Il faut aller refaire son marché et s'écouter. Moi, je crois beaucoup à l'alimentation intuitive. Quand on a envie d'un aliment, ben voilà, remplir son panier d'aliments qui nous font envie, qui nous attirent. C'est souvent ce dont on a besoin. Moi, ça, je l'expérimente très souvent au comptoir. Les gens vont vous dire, bah, tiens, en ce moment, je mange plein de myrtilles. Et puis, peu de temps après, ils vont vous dire qu'ils ont mal aux jambes. Ben, la myrtille, c'est plein d'antioxydants et c'est excellent pour la circulation, par exemple. Ça veut dire qu'intuitivement...
Oui, ils sont allés vers l'aliment dont ils avaient besoin.
Oui,
c'est ça
oui.
que ça veut dire.
Oui, c'est ça que ça veut dire. C'est dingue, hein ?
C'est bon pour les yeux aussi, non, la myrtille ?
C'est bon pour les yeux aussi.
C'est ce qu'on disait.
Ouais. Tous les fruits de couleur sont excellents pour les yeux.
Alors, il y a plein d'infos. Hein. La betterave, c'est un allié détox. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Alors, la détox, ça a été un peu galvaudé.
On l'entend
à toutes les sauces. C'est... Alors, ne vous détoxifiez, ne faites pas de détox en ce moment. C'est pas le moment. Vous êtes trop fatigué.
Pourquoi ?
On sort de l'hiver, on n'a pas l'énergie de faire une détox. Laissez ça au printemps, quand on se réveille un peu. Là, c'est le moment de faire la détox. Là, en ce moment, ne faites pas de détox. Bon, vous pouvez manger de la betterave, hein, c'est pas... Et donc, la betterave, elle va avoir, une petite action détox. Détox, ça veut dire qu'on va aller jouer sur les toxines et qu'on va aller jouer un peu sur le foie qui traite ces toxines.
Alors, c'est la saison des sardines.
Oui, c'est la saison des sardines.
Des sardines et des endives aussi.
Des endives.
On est encore sur les endives.
Ouais.
Bah, figurez-vous que manger une endive...
C'est comme boire un verre d'eau.
C'est incroyable.
Ouais. Ça m'a marqué aussi en faisant ce bouquin. Ouais, c'est gorgé d'eau, donc c'est super. Mangeons des endives.
Oh, d'ailleurs, quand on les cuit, qu'est-ce que ça regorge comme,
Et ben voilà.
Voilà ça, et quelles sont les vertus des endives, par exemple ? Si on devait... exprimer leur vertu santé.
Alors elles apportent des fibres, elles apportent de l'eau. Après, c'est pas le légume le plus intéressant, l'endive. Mais rien que ça, d'apporter un bon taux d'hydratation et d'apporter des fibres, ben c'est suffisant pour se faire une bonne salade d'endive. Quelques noix pour les oméga-3, un petit peu de grenade pour la couleur, un petit peu d'avocat et puis c'est parti.
Vous consacrez un chapitre à la fatigue. Est-ce qu'on a le temps de parler de la fatigue ou on va parler de la fatigue après la pub ? Alors, on va parler de la fatigue après la pub parce que souvent, les gens qui vont à la pharmacie, Ils arrivent devant la pharmacienne, ils disent « Je suis fatigué, est-ce que vous n'auriez pas un petit cocktail aux 4 vitamines et aux sels minéraux pour me rebooster ?» Et on verra que l'alimentation est là pour nous rebooster.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle de l'alimentation comme médicament, parce qu'on a beaucoup utilisé ce mot de alicament.
Oui, c'est à la mode.
Ouais.
Les gens aiment bien mettre des mots sur... Oui, les alicaments, tous les aliments peuvent être des médicaments en tous les cas. Voilà, il n'y a pas que les super fruits, il n'y a pas que ce dont on entend beaucoup parler sur Instagram. Tout a un intérêt dans l'alimentation. Voilà.
Ouais.
Il n'y a pas que ce qui est à la mode.
Alicaments, bon, c'est vrai que le mot avait été déposé par l'industrie agroalimentaire, donc il valait mieux se méfier. Vous publiez Cuisiner pour se soigner, Estelle Barillon, je rappelle que vous êtes pharmacienne. On parlait de la fatigue et vous dites que manger, ça fatigue l'organisme. Qu'est-ce qui fatigue dans le fait de manger ?
Alors, manger, ça fatigue, ça dépend ce qu'on mange. L'alimentation, c'est quand même notre essence, hein, donc c'est quand même notre fuel. Donc non, ça, tout ne fatigue pas. Il y a des aliments qui fatiguent, parce qu'ils sont compliqués à digérer, parce qu'ils ne sont pas très intéressants et qu'ils n'apportent pas de l'énergie durable à l'organisme, par exemple.
Avant, quand on venait vous voir à la pharmacie, qu'on vous disait le lundi matin, je suis fatigué, j'arrive pas à sortir de mon lit, j'ai les pieds qui traînent. Qu'est-ce que vous proposiez aux gens ?
Ben, on peut proposer, les gens adorent les complexes multivitamines et minéraux. Donc voilà, auparavant, c'est des choses que je pouvais donner. Maintenant que j'ai un peu plus étudié le sujet, je vais plutôt aller uniquement sur les oligo-éléments qui souvent sont beaucoup plus problématiques parce que c'est uniquement apporté par l'alimentation. Et avec le lessivage des sols, on en manque en fait. Les fruits et les légumes ne sont plus assez riches en oligo-éléments. Donc quand on est fatigué, finalement, on a de meilleurs résultats avec les oligo-éléments qu'avec les vitamines. Alors bien sûr, à côté, je donne tous les conseils pour avoir les vitamines dans son alimentation.
Et les oligo-éléments, on les trouve ? Non, pas du tout.
Si, on les trouve. Mais ça fait du bien quand on en apporte une ou deux fois dans l'année en cure. Vraiment, on sent la
Donc
différence.
Donc là, c'est le cas où on peut effectivement les prendre en supplémentation.
C'est ça, exactement.
On va dire. Votre cocktail qui défatigue ?
Alors, quand on est fatigué, le cocktail anti-fatigue, ça va être justement de bien manger, de s'éloigner des calories vides, là, de tous ces sucres qui nous donnent de l'énergie fugace, mais 2 heures après, on a encore faim. Tout le monde a expérimenté le McDo, 2 heures après, on a faim, quoi. Donc, éloignons-nous de tout ça et allons vers les fruits et les légumes. Quand vous êtes fatigué, mangez une salade à midi, une belle salade composée, vous serez moins fatigué 2 heures après, je vous le garantis.
Carottes, cajou, piment d'Espelette, par exemple.
Mais oui, c'est sympa cette association. On va avoir les fibres de la carotte, les caroténoïdes, on va avoir les bons gras de la noix de cajou et puis le petit twist avec le piment d'Espelette. Ça marche bien.
Grémolata, alors j'ai appris ça dans votre
livre. C'est ma préférée, merci.
Oui, oui, c'est cool.
Je l'adore, celle-ci.
Il a fallu que j'aille chercher le mot.
Ouais,
je ne sais pas
Grémolata,
du tout.
Ouais. C'est, au départ, c'est servi avec le sobuco. C'est un condiment. Et il y a tout dans ce condiment.
C'est quoi, c'est une forme de persillade, c'est
Oui,
quoi
tout à fait, c'est exactement ça. Mais une persillade avec les agrumes, avec le zeste du citron ou de l'orange ou les deux, et de l'ail écrasé. Alors, un, c'est excellent, et deux, c'est une bombe nutritionnelle, il y a tout dedans. Et elle se marie avec plein de choses. Vous pouvez en mettre sur du riz, vous pouvez en mettre sur une salade, vous pouvez en mettre sur du poisson, et ça va réveiller vos plats et réveiller vos organismes.
Bien. Grémolata, la power powder.
Bah ouais, ça donne du jus.
C'est une recette que vous donnez dans votre livre. Pourquoi faut-il réhabiliter le fenouil ? Et les gens aiment pas beaucoup hein, le fenouil.
Bah oui, mais pourquoi ? C'est excellent le fenouil. Alors d'abord,
le goût anisé.
Alors il peut parfois disparaître ce goût anisé quand on le mange cru, très frais. Et puis on peut mettre un petit peu on peut le mélanger avec d'autres choses pour atténuer un peu le goût anisé. En tous les cas, c'est un excellent aliment, le fenouil. Très intéressant.
Quelle est votre position sur le curcuma, dont on dit à peu près tout et n'importe quoi ?
Ben voilà, ben c'est toujours pareil, c'est à la mode. Le curcuma, oui, c'est intéressant, ça a des vertus anti-inflammatoires, mais on retombe dans nos travers de vouloir masquer l'inflammation pourquoi on n'essaierait pas de qu'elle n'arrive pas, cette inflammation, plutôt que une fois qu'elle est là, mettre un voile dessus, faisons en sorte qu'elle n'arrive pas à l'inflammation. Ce serait plus intéressant. Donc on retombe dans les travers de la médecine traditionnelle de vouloir soigner le symptôme.
Alors, base et acidité, pourquoi ce sont des concepts intéressants à comprendre quand on mange ?
Parce que nous sommes la somme de réactions chimiques. Donc c'est intéressant de s'intéresser au pH. Et le terrain fonctionne mieux quand on a un pH plutôt alcalin. Voilà. Donc, on est gavé d'aliments qui sont acidifiants dans nos alimentations modernes.
Alors, genre quoi, par exemple ?
Quels sont c'est toujours la même chose. Hein. Les protéines animales, les sucres sont très acidifiants et on inonde nos alimentations de ces aliments-là. Voilà. Et ce qui est basifiant, c'est-à-dire alcalinisant, ce sont les fruits et les légumes. Donc, on tourne toujours sur les mêmes notions. Hein. C'est ce que je vous disais, on peut prendre plein de chemins. Tous les chemins mènent à Rome. On arrive toujours au même constat.
Il y a une mode aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les super aliments. Alors, on va prendre un exemple, les algues.
Oui.
Bon, la spiruline.
Oui.
Là aussi, pareil, la spiruline, star d'un peu tout le monde.
Mais très intéressante, la spiruline. Mais d'abord, est-ce que vous avez déjà goûté ? C'est quand même pas ultra bon.
Oui, c'est pas rock'n'roll, hein, franchement, je veux dire.
Voilà, et puis on peut pas. C'est pas de l'alimentation de manger de la spiruline matin, midi et soir. Donc oui, pourquoi pas en parsemer, pourquoi pas inventer des plats. D'ailleurs, on l'a fait dans le livre avec un petit peu de spiruline parce que c'est rigolo, ça donne de la couleur verte à ce qu'on prépare. Mais voilà, il n'y a pas lieu d'en manger matin, midi et soir. Ça fait partie des choses intéressantes. Mais il faut les varier, ces choses. Toujours.
Et super aliment ou pas super aliment alors ?
Ben pourquoi pas super aliment, mais aliment tout court, déjà. Commençons par là.
Comment bien s'alimenter en cas de douleur ? Finalement, vous dites que ça marche. Là, pour le coup, l'alimentation fonctionne très bien sur les douleurs.
Oui, donc ça, c'est hyper probant. Allez, prenons un exemple. Vous avez une tendinite. Mettez-vous à l'alimentation hypo-inflammatoire. Vous allez vraiment sentir la différence.
Alors, qu'est-ce que vous appelez l'alimentation hypo-inflammatoire ?
Alors, on va vraiment, vraiment réduire les aliments inflammatoires. Donc, toujours la même histoire. On va réduire les protéines animales, les produits laitiers, les viandes, les charcuteries. On va essayer de réduire au maximum les sucres. Et tout de suite, on va réduire l'inflammation qu'on apporte. Donc, on va réduire son terrain inflammatoire. Et par voie de conséquence, on va améliorer ses douleurs.
Quand vous parlez de douleur, vous parlez de quel type de douleur ?
Tous les types de douleurs. En fait, la douleur, c'est le signal d'une inflammation. Donc, l'inflammation, elle peut avoir lieu à plein d'endroits différents. Ça reste toujours le même phénomène qui se met en place, l'inflammation. Le feu.
Et donc, finalement, ça agit en combien de temps ?
Alors, ça peut agir rapidement. Hein. Si on supprime ces aliments pro-inflammatoires, en quelques jours, on peut vraiment sentir la différence. Et puis, justement, faisons l'effort sur ces quelques jours où on souffre de douleur. Je ne demande pas à ce qu'on fasse des évictions totales à vie de ces aliments. Mais pendant la semaine où on souffre, d'y faire attention. Et puis, en plus, quand on fait attention sur une semaine, ensuite, on garde quelques bonnes habitudes. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est une porte d'entrée à l'alimentation plus saine.
Qu'est-ce que la pharmacienne que vous êtes a compris quand elle s'est intéressée à la naturopathie ?
Elle a compris qu'on ne comprend pas toujours tout et qu'il faut accepter que aider les gens, soigner les gens, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend de la personne qu'on a en face et qu'elle aussi a un pouvoir sur son éventuelle guérison. Et à savoir si elle va l'utiliser ou pas. Est-ce qu'elle va se complaire dans la maladie ? Il y a des gens, hein, vous savez, ça, on appelle ça les effets secondaires de la maladie, les bénéfices secondaires à la maladie. Hein, vous connaissez ça ? C'est-à-dire qu'on se complaît dans la maladie parce que, en échange, on obtient un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de cocooning. Ou bien est-ce que je décide de prendre le pouvoir sur ce qui m'arrive ?
Quand on arrive et qu'on va voir une pharmacienne, on dit voilà, j'ai mal à la tête, je voudrais un doliprane. Hein.
Enfin, je le donne.
Ou un aspirine. Voilà.
Je le donne, le doliprane.
Effet immédiat.
Oui, mais moi, quand j'ai mal à la tête, je prends un doliprane. Voilà. En l'occurrence, je n'ai plus souvent mal à la tête. Ça m'arrive rarement maintenant.
Le rhume, alors on n'a pas encore parlé du rhume, hein, c'est le quatrième chapitre de votre livre, hein, le rhume. Le wasabi, c'est très bien pour déboucher le nez.
Oui.
Mais la moutarde aussi, je vous dirais.
Mais oui, bien sûr. Il y a une petite action au niveau des voies aériennes supérieures, ben oui, ça débouche.
Vos aliments anti-rhume et anti-syndrome grippal?
Alors, il faut augmenter les aliments qui vont avoir une action sur l'inflammation. Donc, on va repartir sur toujours les mêmes choses. Et pour le rhume en particulier, il y a des aliments soufrés qui vont avoir un intérêt pour dissoudre un peu les mucosités et avoir un meilleur état respiratoire.
Alors, par exemple, dans votre livre, il y a un cake à la cannelle. Et la cannelle est utilisée en médecine chinoise.
Oui, alors elle est antiseptique, la cannelle. Elle a les vertus antiseptiques. Ça ne suffira pas, évidemment, mais ça contribuera. Donc, c'est toujours pareil, un ensemble de choses qui vont aider.
Vous avez un porridge du nez qui coule, un couscous.
Rescousse.
Hein? Ouais, c'est ça. Donc, tout ça, c'est des recettes que vous proposez. Pourquoi est-ce qu'il faut cuire les légumes al dente, par exemple?
Pour préserver au maximum les vitamines qu'ils contiennent. La chaleur, le feu, toujours pareil, ça détruit. Hein, le feu, ça détruit, pensez-y. Donc, essayez de baisser le feu. Vous aurez plus de choses intéressantes dans vos aliments si vous les cuisez moins.
Avec du recul, sur quelle pathologie les changements alimentaires sont-ils les plus spectaculaires?
La fatigue, peut-être. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté le plus vite. On a dans la tête, par exemple, que quand on travaille, on doit manger un bon steak frites à midi pour avoir de l'énergie l'après-midi. C'est faux. Manger une salade, vous aurez plus d'énergie l'après-midi. Voilà.
Et on a suffisamment pour passer l'après-midi?
Largement, mais ouais. Largement, vraiment. Ouais. Il faut retenir que ce qui rassasie, ce sont les fibres et les protéines. Contrairement à ce qu'on imagine, les féculents, non. Manger des fibres et des protéines, c'est-à-dire manger, pourquoi pas, une boîte de maquereaux avec une salade, vous aurez moins faim et vous aurez beaucoup plus d'énergie l'après-midi.
La boîte de maquereaux, on va y penser, alors vous aurez peut-être moins faim.
Alors, deux œufs, allez.
Vous aurez moins faim, mais bon, vous sentirez le maquereau.
Eh bien, deux œufs, voilà.
Voilà, c'est ça. Après, vos collègues vous diront pas merci. Non. Mais vous aurez moins faim.
C'est ça.
Et c'est bon pour tout.
Exactement. C'est bon pour le cerveau
d'ailleurs,
aussi.
Tarek, maintenant, mange du maquereau à midi. Et ça sent un peu le maquereau, d'ailleurs, je devrais dire. Bien, cuisiner pour se soigner, c'est le titre du livre que vous publiez, co-écrit. On va parler de votre co-auteur quand même.
Oui, Audrey, bien sûr. Mm-hmm. Ouais. Audrey, elle m'a proposé des recettes. Elle est arrivée un petit peu après l'élaboration du projet et elle m'a proposé son aide, que j'ai acceptée parce qu'ensemble on va plus loin. Et on a travaillé ensemble sur les bons à savoir notamment. Qu'on a tricoté ensemble.
Très bien, et voilà, votre livre sort chez Kiwi. Estelle Barillon était notre invitée ce matin. Je rappelle que vous pouvez réécouter le podcast de l'émission sur beurrefm.net et revoir la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Philippe pour cette invitation.
Et très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.